20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 2 juillet 2008. Ingrid Betancourt, l'otage la plus célèbre du monde, est libérée après avoir passé plus de 6 ans aux mains des FARC. Nous sommes le 2 juillet 2008. Ce soir-là, je suis dans un restaurant à Paris, avec quelques amis, on trinque à la vie, à l'amitié et à mon anniversaire. Quand soudain, les téléphones des convives se mettent à vibrer. Le silence se fait, la nouvelle vient de tomber. Ingrid Betancourt, l'otage dont on suit avec inquiétude la captivité depuis 2319 jours dans la jungle colombienne, vient d'être libérée. Ce soir-là, on lèvera nos verres à sa liberté.
Instantané RTL, il est 21h19, on apprend à l'instant la libération de l'otage franco-colombienne Ingrid Betancourt. C'est ce qu'annonce à l'instant l'armée colombienne. En tout, 15 otages auraient été libérés des mains des FARC, la guérilla marxiste. 15 otages qui seraient sains et saufs. Et parmi ces otages, donc Ingrid Betancourt.
Ingrid Betancourt, franco-colombienne, était candidate à l'élection présidentielle de Colombie quand elle a été enlevée avec sa directrice de campagne, Clara Rojas, le 23 février 2002 par les FARC, les forces armées révolutionnaires. Elle avait 41 ans et deux jeunes enfants, Mélanie et Lorenzo. Depuis, le monde entier a suivi sa captivité au travers de vidéos où elle apparaît amaigrie et épuisée. Plus tard, elle évoquera des tortures, vexations et humiliations et affirmera avoir été traitée comme un chien, attachée à un arbre près des latrines après une énième tentative d'évasion. « Je vais mal physiquement. Je ne suis pas réalimentée, j'ai l'appétit bloqué, les cheveux me tombent en grande quantité, je n'ai envie de rien », écrira-t-elle à sa famille en 2007. Malgré les sévices, il ne faut surtout pas perdre Ingrid Betancourt pour les FARC, car depuis la jungle où elle est retenue, elle devient au fil des ans un trésor de guerre inestimable qui garantit à ses geôliers une médiatisation inespérée dans la presse internationale. C'est dans la province de Guaviare, dans le sud-est de la Colombie, qu'a eu lieu l'opération baptisée Échec et Mat et qui a permis la libération des otages sans le moindre coup de feu. Un coup de génie de la part de l'armée qui, quelque temps auparavant, avait infiltré l'organisation terroriste. Ce 2 juillet 2008, les FARC ont reçu l'ordre de réunir tous les otages à leur diviser en trois groupes afin d'organiser leur transfert dans le sud du pays. Deux hélicoptères repeints en blanc avec des soldats déguisés en guérilleros survolent la zone. L'un d'eux se pose. Malgré leurs protestations, les otages sont sommés de monter à bord. J'ai vu qu'ils avaient des t-shirts de Che Guevara. Je me suis dit c'est des FARC, expliquera Ingrid Betancourt plus tard. Ils ont fermé les portes de l'hélico, on a décollé, et là il s'est passé quelque chose, je n'ai pas compris tout de suite. J'ai vu le commandant des FARC ligoter devant moi dans l'hélico. Le chef de l'opération m'a dit « Nous sommes l'armée nationale, vous êtes libres ». L'hélicoptère a failli tomber tellement on sautait de joie, on pleurait, on s'embrassait. Retour ce soir sur une libération que l'on aura attendue plus de 6 ans et qui aura mobilisé la France et le monde entier. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Ingrid Betancourt, la précieuse otage des FARC en Colombie, a été libérée le 2 juillet 2008 lors d'une opération militaire appelée Yaqué, traduisant en français échec et mat. Un coup de maître de la part de l'armée colombienne qui aura permis à 15 captifs de recouvrer la liberté. Notre invité ce soir jusqu'à 21h est Hervé Marot. Hervé Marot, bonsoir.
Bonsoir, Flavie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant indépendant. Vous étiez à l'époque le porte-parole du comité de soutien d'Ingrid Betancourt. Racontez-nous déjà l'histoire de ce comité. Il a été créé quand ?
Ce comité de soutien, en fait, se crée dans la foulée, en réalité, de la prise d'otage d'Ingrid Betancourt.
Ouais.
Pendant une première année, il va agglomérer, en fait, des bonnes intentions qui ont envie de se mobiliser, de ne pas rester les bras croisés face à la prise d'otage d'Ingrid Betancourt. Et c'est en réalité au moment du premier anniversaire de sa prise d'otage qu'il va commencer à grandir et à organiser des actions avec de plus en plus de résonance nationale et internationale.
On reviendra justement sur ces actions un petit peu plus tard dans l'émission. Elle a été kidnappée le 23 février 2002. Tous les Français, ils ont découvert en fait Ingrid Betancourt à la funeste nouvelle faveur, je dirais, de son kidnapping. Hein. Qui était-elle ? Elle était plus connue en Colombie qu'en France.
Oui. Et non, Puisqu'en fait, Ingrid Betancourt avait publié quelques années avant sa prise d'otage La rage au cœur, qui a été un des best-sellers en 2001 de mémoire. Elle prend part à l'émission Des racines et des ailes, où elle impressionne justement par sa lucidité et le sens de son à-propos, en fait, dans l'explication des raisons du mal-être colombien. Et il y a déjà en fait un socle de Français, dont je suis à l'époque, qui sommes impressionnés en fait par le courage de cette femme qui a décidé de secouer le cocotier colombien absolument pourri par la corruption depuis des décennies.
Donc, elle est connue, je dirais, en tout cas, par une. Elle est connue de façon confidentielle et avertie en France. Voilà. À ce moment-là, elle décide donc de s'engager effectivement contre la corruption en Colombie. Il faut préciser qu'elle est franco-colombienne. Elle vient d'où ? De quel milieu ?
Ingrid Betancourt, elle vient d'un milieu très aisé. Son père, Gabriel Betancourt, a été ministre en Colombie. Il a aussi été ambassadeur de Colombie auprès de l'UNESCO. Il a été conseiller de Kennedy également. Sa maman, Yolanda Pulesio, est une ancienne Miss Colombie. Grand tempérament, tempérament impressionnante. Quelqu'un, je crois que si la détermination devait être faite, non pas femme, mais être humain, elle ressemblerait à Yolanda Pulesio, vraiment. Que ce soit sur tous les combats, que ce soit pour la libération de sa fille, ou pour venir en aide aux gamins, en fait, colombiens, qui laissaient à eux-mêmes, en fait, devenaient ce qu'on appelle des sicarios. Les sicarios, en gros, ce sont des gamins où on allait mettre la tête à prix de quelqu'un et pour X pesos, mais vraiment pas beaucoup, en fait, ils allaient tuer cette personne, mais dès l'âge de 11, 12, 13 ans. Et en fait, Yolanda se fait aussi connaître en Colombie parce qu'elle crée donc l'albergue infantil pour éradiquer ce problème à la racine, c'est-à-dire en accueillant ces enfants laissés à eux-mêmes et en les aidant justement à avoir, à bénéficier d'une éducation et de chances comme pourraient les avoir d'autres petits Colombiens. Et pour le coup, elle est très appréciée pour cette action-là. Donc Ingrid Betancourt...
C'est un mélange des deux, hein, parce que quand on vous écoute, on comprend mieux cette personnalité comme on l'a perçue. Une femme d'engagement et une grande ténacité dans ses 6 ans de captivité.
Très clairement, et je pense que sur la ténacité, son modèle, c'est sa mère, indéniablement. Quand ses parents se séparent, il y a toute une campagne orchestrée par une presse extrêmement conservatrice contre Yolanda, qui serait une mauvaise mère, alors que dire ça de quelqu'un qui, pendant les plus de 6 années de captivité de sa fille, tous les matins était sur Radio Caracol, qui est cette radio qui permettait aux proches d'otages, justement, d'envoyer des messages dans la jungle aux otages. Yolanda, pas un matin, même quand elle était en France pour venir mobiliser l'opinion ici ou ailleurs, quelle que soit l'heure, quel que soit le décalage horaire,
elle était là.
Elle était là. Ça a été véritablement le cordon ombilical d'Ingrid par l'intermédiaire des ondes pendant toute sa captivité.
Donc Ingrid Betancourt, très jeune, elle a le sens de l'engagement, elle a le sens de la politique et donc elle décide un jour d'aller en Colombie et de s'engager, de se présenter en fait au présidentiel.
L'histoire d'Ingrid Betancourt et de la Colombie, c'est une histoire au départ un peu... parfois contrariée, puisqu'en fait, elle et Astrid, sa sœur, vont suivre leurs parents au gré des nominations, surtout du papa. Au départ, elles vivent en Colombie du temps où il est directeur général adjoint de l'UNESCO. Puis, il revient en Colombie pour être ministre, justement, de l'éducation. C'est un ministre respecté de l'éducation, et encore des années après. Et quand il est remercié au gouvernement, on lui propose de devenir ambassadeur de Colombie auprès de l'UNESCO. Retour en France. Donc, Ingrid, comme Astrid Betancourt, en fait, vont grandir un petit peu au gré des confluences de leur double culture franco-colombienne, l'une comme l'autre. Quand elles sont à Bogota, elles sont par ailleurs au lycée français. Donc, c'est vraiment, les deux cultures vont vraiment les imprégner, mais c'est vrai que pour Ingrid, il y a très jeune, du temps où son père est en poste, cette fois en tant qu'ambassadeur auprès de l'UNESCO, et qu'il reçoive justement à Paris avec la maman d'Ingrid, Yolanda, toutes ces personnalités parmi lesquelles García Márquez ou Pablo Neruda. En fait, Ingrid, elle le raconte d'ailleurs dans son livre La rage au cœur, se cache sous le piano Et en fait, c'est là où elle s'imprègne en fait de toute l'histoire de son pays, qu'elle méconnaît d'une certaine façon, puisqu'elle n'y vit pas autant que d'autres. Mais c'est vrai qu'à l'école de Neruda et de García Márquez, normalement, on comprend plutôt à quoi ressemble la Colombie assez facilement. Et en tout cas, elle garde la conviction qu'elle veut agir pour ce pays.
Elle décide de se présenter au présidentiel. Elle a donc 40 ans, 41 ans, et très vite, elle sera kidnappée. On va se retrouver dans un instant, revenir sur les conditions de son kidnapping avec sa directrice de campagne, Clara Rojas, et sur sa captivité. À tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit ce soir et qui vous emmène dans la jungle colombienne, dans la région de Guaviare, où le 2 juillet 2008, Ingrid Betancourt a été libérée à la surprise générale avec 14 autres otages. Elle était candidate à la présidentielle quand elle a été capturée avec sa directrice de campagne, Clara Rojas. C'était le 23 février 2002. Hervé Marot, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Vous étiez le porte-parole du comité de soutien d'Ingrid Betancourt. Dans quelles circonstances a-t-elle été kidnappée par les FARC ?
Alors, Ingrid Betancourt, elle est capturée par les FARC le 23 février 2002, alors qu'elle tente de se rendre dans la ville de San Vicente del Caguán, où le maire, ouais, en fait, est de son parti politique pour lequel elle se présente à la présidentielle. Ça se passe dans un contexte très chaotique. Trois ans avant ça, le président de l'époque, Andrés Pastrana, a tenté une réconciliation, ou en tout cas une discussion, plutôt disons, avec les FARC, en leur octroyant un territoire grand comme la Suisse, dans cette région du sud de la Colombie. À mesure que les années passent, en fait, le président se rend compte qu'il est en train de se faire duper par Manuel Marulanda, le chef des FARC d'alors. Ça se tend. Véritablement. Et début 2002, en fait, il faut le dire, rien ne va plus. Plusieurs candidats de la présidentielle, à l'époque, vont rencontrer les FARC, justement, pour leur demander, justement, de jouer le jeu de la négociation, dont Ingrid Betancourt, avec un discours qui est impressionnant, pour le coup. On voit les FARC, pareil aux monstres qu'ils sont, de marbre face à tous les discours qu'ils peuvent entendre, qui sont des discours de la dernière chance. Parce que derrière, on sait qu'en gros, si cette dernière chance n'est pas saisie, le chaos va arriver, que la guerre va reprendre véritablement. Et c'est ce qui se passe lorsque les FARC en fait, franchissent un cap de trop en prenant en otage le président de la commission des finances du Sénat et en commençant à dynamiter toute une série de ponts qui n'étaient pas sur leur territoire.
D'accord. Ingrid Betancourt, est-ce qu'elle sait qu'elle court un risque quand elle y va ?
Quand Ingrid, elle y va, elle a conscience qu'elle court un risque. On le sait, enfin, la région du Caguán vit vraiment une situation de chaos. La seule chose, c'est que ce jour-là, le 23 février 2002, il y a quelqu'un d'autre, en fait, qui va à San Vicente del Caguán, c'est Andrés Pastrana, le président sortant, comme pour affirmer justement que l'État est en train de reprendre ses droits, alors que tout autour, l'État ne reprend pas du tout ses droits. Là où Pastrana aurait pu être intelligent, véritablement, c'est qu'en fait, puisqu'on était dans un contexte d'élection présidentielle, pourquoi n'a-t-il pas proposé à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle de l'accompagner, justement, pour aller à San Vicente del Caguán et ensemble, dans une démarche, justement, unitaire de rassemblement, de demander aux FARC de ne pas rentrer dans ce jeu-là et de protéger les populations locales qui, elles, étaient les premières victimes de cette reprise.
Donc là, en fait, elle part seule. Elle part seule avec Clara Rojas. C'est à ce moment-là qu'elle est kidnappée par les FARC.
Exactement. En fait,
l'information sort tout de suite.
Voilà. On lui refuse, en fait, de monter à bord d'un hélicoptère. Elle décide, du coup, d'y aller à bord d'un 4x4. On lui refuse d'y aller avec ses gardes du corps, quand même. Du coup, elle y va. À bord, ils sont exactement 5 à bord de cette voiture. Il va arriver un moment où ils arrivent à ce barrage tenu par une espèce de sous-chef des FARC qui s'appelle El Flaco, qui veut dire le mou, et qui, en fait, bah, du coup...
Les kidnappe.
Et l'info va sortir très très vite, en effet.
On va se retrouver dans un instant, revenir sur la captivité, le quotidien de Ingrid Betancourt et les autres otages pendant 6 ans dans la jungle colombienne. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL jusqu'à 21h en compagnie d'Hervé Marot qui était porte-parole du comité de soutien d'Ingrid Betancourt pendant sa captivité dans la jungle colombienne. Vous nous écoutez également en podcast. Merci pour votre fidélité. On le disait il y a un instant, Hervé Marot, les conditions de la prise d'otage d'Ingrid Betancourt, vous nous les avez expliquées. Maintenant, la captivité, elle commence. On est le 23 février 2002. Est-ce qu'on a rapidement de ces nouvelles? C'est-à-dire que les FARC, effectivement, nous expliquent qu'ils ont kidnappé Ingrid Betancourt. Est-ce qu'on a des images rapidement?
On sait qu'elle est prise en otage.
Ouais, c'est tout.
Mais on va mettre du temps à avoir une première preuve de vie. Et ce qui se passera, c'est qu'en fait, on aura une preuve de vie au bout de un an et un peu plus de captivité. Le moment le plus dur pour nous sera en tout cas entre la première preuve de vie et la deuxième, où en fait on est laissé véritablement dans le noir, sa famille et son comité de soutien, on ne sait pas si elle est en vie.
D'accord, en fait, pendant plusieurs années en fait.
Pendant 4 années facilement, on n'a aucune preuve de vie. On ne peut que se fier aux rumeurs de la jungle, à ce que rapportent certains prêtres de certaines communes à partir de Hondi. En fait, on s'accroche à tous les bruits de couloirs de la jungle.
Alors, qu'est-ce qu'ils vous racontent, ces bruits de couloirs de la jungle? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Je me souviens qu'on nous dit, et ça se vérifiera, qu'elle n'est pas traitée en fait, de façon privilégiée, parce qu'elle est absolument insoumise et rebelle face aux FARC. Elle refuse, en fait, de poser genou à terre face à eux, à l'image un peu de la femme politique qu'elle était avant. Et ça, c'est quelque chose qui se passera tout au long de sa captivité. C'est-à-dire qu'elle refusera toujours de leur faire le cadeau, en fait, de dire oui. Ça aura des conséquences dramatiques pour elle, puisque derrière, les FARC vont vraiment la déshumaniser et la maltraiter comme peu d'autres otages en réalité.
Alors, on parle de torture psychologique, on parle d'humiliation, on parle aussi d'une maladie, elle serait atteinte de l'hépatite B, elle aurait aussi contracté une affection cutanée transmise par les moustiques, qu'elle n'aura pas été d'ailleurs soignée, véritablement. Et pourtant, ça reste une otage, pardon de le dire comme ça, mais précieuse, qui a une valeur aussi médiatique, c'est ce que je disais en introduction de l'émission.
C'est absolument paradoxal, en fait, puisque d'un côté, les FARC savent, en effet, parce qu'il y a toute une mobilisation internationale qui a commencé à se mettre en place, que c'est, en effet, leur otage la plus importante. Ils n'ont jamais eu autant voix au chapitre, d'écho à travers le monde, que depuis qu'elle est leur otage. Et paradoxalement, en fait, dans un camp, du coup, ce qui se passe, c'est que les geôliers ont à gérer pas une seule otage, mais plusieurs otages ensemble. Ouais. Et Ingrid, en fait, incite tout le monde, par son comportement, à ne pas abandonner la flamme humaine qui reste en eux.
Donc ça veut dire qu'elle motive aussi les autres otages, ça veut dire qu'elle insuffle quelque part un vent de rébellion au sein des otages. Elle est affaiblie aussi par des nouvelles qui viennent jusqu'à elle. Alors si elle est boostée, je dirais, le matin par ce lien qu'elle a à la radio avec sa maman, elle va perdre aussi son père pendant sa captivité. Elle en sera informée, ça, en temps réel?
Elle finira par le savoir justement plus par les messages de Yolanda. Mais il y a eu beaucoup de moments où, en fait, que ce soit à travers les messages de la radio, mais également son mari d'alors, Juan Carlos Lecomte, qui a survolé plusieurs fois des zones en avion et des zones pas tranquilles, pour lâcher des dizaines de milliers de portraits de ses enfants pour qu'elle voie qu'ils avaient grandi et à quoi ils ressemblaient dorénavant, en espérant que quelqu'un puisse ramasser ça et peut-être la remettre à quelqu'un. Enfin, on a tout essayé, en fait, pour les uns, les autres, pour essayer de la maintenir informée le plus possible.
Et quand elle a appris la mort de son père, là, pour le coup, ça a été très difficile. Elle l'aura confié après.
Ah oui, c'est absolument dévastateur. Et elle le dit, elle pleure et elle pleure. À l'injustice qu'elle vit d'être otage, s'ajoute une couche d'impuissance face au deuil.
Et à la perte. Quels étaient ses rapports avec les autres otages pendant sa captivité?
Ça dépend. Très
elle a été très proche de Gianfranco Pinchao.
Exactement.
Voilà, à qui elle a appris le français, à qui elle a appris à nager, ce qui le sauvera d'ailleurs lors d'une évasion. Oui. On y reviendra un petit peu plus tard. Clara Rojas, qui était sa directrice de campagne, les rapports se sont tendus aussi. Oui. Les femmes ont été séparées, hein, toutes les deux. Oui. C'est-à-dire qu'ils se sont, ils ont bougé dans la jungle. Là, ils étaient tout le temps en mouvement. C'est pour ça que vous ne saviez jamais véritablement où ils étaient.
C'était la stratégie des FARC. Alors, il faut savoir que la jungle colombienne, enfin, c'est l'Amazonie pour le coup. Donc en fait, avec des arbres extrêmement hauts, évidemment, depuis le ciel, on ne voit rien. Mais quoi qu'il arrive, pour éviter toute détection de la présence des otages à un endroit ou à un autre, on les fait bouger en permanence, de jour comme de nuit, parfois sur des embarcations qu'on recouvre en fait de toile pour éviter qu'on voit qui est à bord de cette embarcation.
Donc ça veut dire qu'ils sont complètement désorientés et donc dans leurs rapports humains aussi, on le comprend, ça n'a pas toujours été facile. On va y revenir dans un instant parce qu'il est possible aussi que le traitement, je dirais, des otages, vous l'avez dit, hein, soit déshumanisant et donc à un moment donné ait un impact aussi sur ce qui se passe au milieu du village, du camp, comme ils le disaient.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
On poursuit notre conversation de ce soir avec Hervé Marot au sujet de la libération d'Ingrid Betancourt. C'était le 2 juillet 2008, après plus de 6 ans de captivité aux mains des FARC dans la jungle colombienne. Hervé Marot, on parlait il y a un instant des relations qu'Ingrid Betancourt pouvait avoir avec les autres otages. On a bien compris effectivement, parce que nous on ne l'éprouve pas, hein, cette déshumanisation au quotidien, la difficulté qu'ils peuvent évidemment rencontrer. Chaque jour est un combat. Néanmoins, si elle a voulu insuffler de l'énergie sur le camp avec les autres otages, il se trouve, et ça c'est ce qu'on a entendu après, que les choses ne se sont pas toujours bien passées entre eux.
Un camp de FARC, c'est un camp de concentration. Pour comprendre ce qui se passe dans ce camp, je me souviens qu'à l'époque, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à certains passages de Primo Levi, justement racontant à quel point, dans un tout autre contexte évidemment, où lui parlait de camp d'extermination, c'est quelque chose de totalement différent évidemment, mais en tout cas, dans ces camps-là, tout est fait en fait pour déshumaniser, pour monter les prisonniers les uns contre les autres, diviser pour mieux régner, tout simplement. À l'un, on va supprimer une radio, à l'autre, on ne va pas donner à manger, et sciemment, en le faisant sous les yeux des autres, et on va faire en sorte de briser toutes les formes de solidarité qui peuvent se dessiner entre les uns et les autres, et à tel point qu'en fait, à un moment, on arrive à un stade où la fracture est telle entre certains que le contact et l'entraide n'est absolument plus envisageable. La confiance fait par trop défaut, justement, et ça donne des situations absolument inextricables.
Voilà, inextricables, et on a entendu à travers des témoignages, hein, au sortir justement de ces années de captivité, on s'est rendu compte que Ingrid Betancourt n'avait pas été très appréciée, hein, si je puis le dire comme ça, sur le camp par les autres otages. Elle a tenté à plusieurs reprises de s'évader. Dès le lendemain, d'ailleurs, hein, de sa prise d'otage, Ingrid Betancourt décide avec Clara Rojas, sa directrice de campagne, de partir dans la jungle et elles parviennent presque à s'évader.
Alors, c'est quelques jours après, en fait, dès le lendemain, en fait, elle va utiliser en fait un moyen. Elle ne sait pas du tout jouer aux échecs.
Oui.
Mais par contre, ses geôliers lui proposent de jouer aux échecs. Et elle comprend qu'en fait, c'est le moment où, même si elle ne sait pas jouer aux échecs, comme ils vont la faire jouer avec Clara, c'est potentiellement le moment où elles vont pouvoir avoir une chance de communiquer. Et ça va leur permettre très vite, en effet, de mettre en place un stratagème d'évasion où elles vont prendre en fait les chaussures d'autres otages qui dorment au niveau de leur paillasse et en laissant les leurs en fait devant leur paillasse. Donc en fait, elles se sont fait la malle et les geôliers, sur ce premier coup, n'y voient que du feu. Ils vont mettre du temps avant de percuter, sauf qu'ensuite, la jungle amazonienne est la jungle amazonienne. Et donc derrière, toutes les tentatives d'échapper vont
se solder par des échecs.
Par des échecs, pour des raisons à chaque fois différentes, liées à des maladies d'un des camarades de Ingrid Betancourt, Luis Eladio Pérez, qui se remettait justement d'une leishmaniose, maladie dont sera atteinte aussi Ingrid. Et en fait, au bout de 6 jours, après qu'ils aient réussi à se laisser porter par le courant, enfin, Luis Eladio Pérez, qui a été libéré finalement avant Ingrid, nous avait raconté que ben, ils se débrouillaient pour essayer de pêcher des poissons et de manger du poisson cru pour s'alimenter en fait pendant cette tentative d'évasion. Mais à un moment, en fait, il sera trop fatigué et Ingrid décidera d'abandonner l'idée de s'évader pour ne pas le mettre en danger. À chaque fois, en fait, c'est un labyrinthe.
C'est ça.
Insolvable.
Et à chaque fois, soit ils sont récupérés, soit en fait ils rentrent. Il y a même une fois où ils rentrent au camp des FARC parce que ils n'ont pas réussi finalement à traverser cette jungle. Alors durant ces 6 années de captivité, alors que elle effectivement elle a régulièrement essayé de s'échapper, des actions ont été menées pour libérer Ingrid Betancourt, toujours soldées elles aussi par des échecs, comme on l'apprenait en 2003, un peu plus d'un an après son enlèvement. Nous sommes le 22 juillet sur RT. Il est 18h.
On est peut-être passé tout près de la libération d'Ingrid Betancourt, retenue en otage en Colombie depuis le mois de février 2002 par les rebelles marxistes des FARC. Sa sœur Astrid s'est rendue au Brésil sur la foi d'un renseignement qui évoquait la libération d'Ingrid dans la forêt amazonienne. Elle a alerté le gouvernement français. Un avion militaire médicalisé est arrivé à Manaus au Brésil. Ensuite, la libération a capoté, mais on ne sait pas pourquoi.
On apprendra ensuite que Dominique de Villepin aurait payé une rançon pour cette opération et qu'il se serait fait avoir et que c'est à partir de là que les FARC auraient compris la valeur de leur otage. Et il y a une autre action qui sera menée par la France en 2008, mais sur la base de fausses informations. On a quand même le sentiment, Hervé Marot, que les Colombiens et les Français ne se sont jamais entendus sur des opérations qui auraient pu libérer l'otage. Ils n'ont pas travaillé conjointement.
Ils n'ont jamais réussi à travailler conjointement.
Ouais.
Ils n'ont jamais réussi à travailler en confiance les uns avec les autres. Il y avait de la diplomatie, il y avait du dialogue, mais il y avait toujours une extrême méfiance des uns envers les autres et vice-versa. Les Colombiens considérant que la France n'avait pas à faire d'ingérence sur une affaire qui était colombienne. Certes, Ingrid était franco-colombienne, mais l'enjeu des FARC n'avait rien à voir avec un enjeu français. Et de leur côté, en fait, les Français, très vite, se trouvent aussi, il faut dire, face à un mur de diplomatie. C'est-à-dire qu'en face, les Colombiens ne veulent pas entendre parler de la moindre ingérence et toute proposition d'aide a tendance à être perçue comme une tentative de filouter la diplomatie colombienne.
Voilà, et c'est la raison pour laquelle toutes les actions auront été menées séparément, et c'est l'action colombienne qui effectivement sera soldée par un succès. On va se retrouver dans un instant et revenir sur ce fameux jour de la libération d'Ingrid Betancourt. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Nous suivons depuis 20h dans Jour J la vie en captivité d'une femme qui à elle seule a été le visage de tous les otages des FARC et du monde entier pendant 6 ans. Ingrid Betancourt, 5 tentatives d'évasion, 2 tentatives de libération avortées pour la France. Pendant ce temps-là, Hervé Marot, vous n'avez eu de cesse avec le comité de soutien d'Ingrid Betancourt de mener des opérations nationales et internationales pour faire bouger les choses.
Complètement. Et puis pour être très sincère, on était un comité de soutien qui était plutôt un comité de soutien de pirates tête brûlée qui avaient peur de rien. C'est-à-dire, plus on nous disait « il ne faut pas faire ça », plus on se disait « ah bah c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour réveiller tout le monde ».
D'accord.
On a quand même envisagé de s'enchaîner au Quai d'Orsay une fois.
Ouais.
Et on avait été sur place pour aller repérer comment bien faire ça, qu'est-ce qu'il nous fallait comme matériel, combien il fallait de personnes. Enfin, on était partis pour le faire. Parce qu'en fait, on avait un gouvernement colombien qui était mais en dessous de tout, véritablement. Enfin, le président Alvaro Uribe s'est comporté d'une façon mais vraiment méprisante vis-à-vis d'un grand nombre de familles d'otages. Ça n'enlève pas le succès de l'opération Raqqa au final, mais son attitude a été froide, hautaine, inhumaine par moments. L'attitude du gouvernement français, en fait, oscillait véritablement en fonction de ce que l'opinion publique disait à ce moment-là.
Donc vous avez compris que c'était en secouant justement l'opinion que vous alliez secouer finalement les autorités.
Ah ben on n'a rien fait d'autre que de faire d'employer les techniques d'agite propre de celle pour laquelle on se mobilisait, en fait. Puisqu'Ingrid Betancourt se fait connaître en Colombie avec des pratiques justement d'agite propre pour attirer l'attention et faire connaître aussi ses combats contre la corruption, nous, en fait, on décide d'opter pour l'agite propre également, de ne pas hésiter à taper du poing sur la table et à dire un mot plus haut qu'un autre quand il le faut, pour justement obliger le gouvernement à prendre ses responsabilités. Au final, ça porte ses fruits, puisque derrière, quand on arrive à l'élection présidentielle de 2007 et qu'on présente un manifeste à tous les candidats à la présidence de la République, sauf le Front National, on ne voulait pas en entendre parler, très clairement.
Tous les candidats ont pris en considération.
Tout le monde l'a signé.
Voilà.
Il y en a qui ont voulu négocier des points du manifeste à ne pas signer. Et on était, écoutez, on va sortir devant les médias là tout de suite et leur dire qu'en fait, vous signez que 7 points sur 10, c'est pour vous le problème, c'est pas pour nous. Mais on ira voir les autres et eux, s'ils en signent 9, il y aura un candidat qui sera... En fait, on les a tous pris à leur propre jeu.
Et vous avez bien fait puisque ça a fait bouger les choses. Le 2 juillet 2008, à la surprise générale, Ingrid Betancourt est libérée. Vous aviez été informé de l'imminence de cette libération ?
Informé, oui et non.
Oui.
Pour répondre franchement. En fait, le matin, je reçois un coup de fil de l'ambassade de Colombie en France. C'est l'ambassadeur de Colombie qui demande à me parler et qui, en fait, me dit « Oui, je vous appelle, je veux juste vérifier tous les numéros de téléphone des membres de la famille d'Ingrid Betancourt », ce qui ne s'était jamais passé en plus de 6 ans de prise d'otage d'Ingrid Betancourt. Donc, à ce moment, je suis un peu surpris. Je lui dis « Oui, bien sûr, on vérifie, tout est bon. Tous les numéros qu'il avait étaient bons. » J'ai dit « Mais en fait... pourquoi, vous m'appelez vous pour faire ça? Pourquoi ça n'est pas votre secrétaire qui m'aurait appelé normalement ?» Il me dit « Non, mais il y a des précautions qui sont plus importantes que d'autres, vous savez. » Et voilà. Et on en est resté là. Je me souviens d'appeler immédiatement Fabrice, le père des enfants d'Ingrid, pour lui dire « Écoute, Fabrice, il vient de se passer un truc qui n'a aucun sens. Je lui raconte la chose. » Et Fabrice me dit « Écoute, il me calme un peu en me disant je comprends que tu as envie de ressentir de l'espoir, mais soyons prudents, on a déjà eu tellement d'espoirs déçus, mais on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. » Et en fait, le lendemain, l'ambassadeur me dira qu'en fait, il l'avait fait exprès pour me donner un indice.
Et cet indice que vous aviez bien compris. À sa sortie de l'avion à Bogota, Ingrid Betancourt a tenu à remercier la France, tous les hommes politiques qui ont œuvré pour sa libération pendant sa captivité. Puis 2 jours plus tard, elle arrive à l'aéroport de Villacoublay dans un avion de la République française. Elle est accueillie par le président Nicolas Sarkozy, la délégation française et son comité de soutien. Voici les premiers mots d'Ingrid Betancourt sur le sol français.
J'ai beaucoup pleuré pendant 7 ans de douleur et d'indignation. Aujourd'hui, je pleure de joie.
Vous étiez là, Hervé Maron ?
Oui, oui.
Pour la première fois, vous avez vu cette femme pour laquelle vous avez tout donné pendant 6 ans.
Comme 99% des membres du comité de soutien, on ne l'avait jamais vue, jamais rencontrée avant.
Alors ?
Et en fait, on voit cette femme qui sort de l'avion présidentiel. Et justement, il y a toujours... C'est une scène qui se répète souvent, en vrai, avec les libérations d'otages. Cette porte de l'avion qui s'ouvre, ça avait été le cas pour Florence Obna, ça avait été le cas pour les otages du Liban, de mémoire également, où en fait, on voit des personnes qui reviennent à la vie, véritablement. C'est comme une nouvelle naissance, et ils sont rayonnants, il faut regarder, il faut écouter les discours de tous les otages.
On
libérés.
Est parfois même surpris de voir leurs visages qui tout à coup sont imprégnés de joie. Oui. Enfin, on est surpris de l'énergie qu'ils ont dans ces moments-là.
Exactement. Et une lumière, mais vraiment une lumière impressionnante et où on sent en fait que leur libération, c'est une renaissance et qu'en fait, ils ont besoin en fait d'évacuer certaines choses, mais aussi de recroquer la vie tout de suite. Et ça a quelque chose de fascinant, en fait. On regarde la scène et ça fait parfois 6 ans et demi pour certains qu'on se mobilise. Et on est là et on est bluffé, en fait.
Elle vient à vous ?
Elle vient à nous. On est tous répartis sur le tarmac. Et puis ensuite, on ne traîne pas parce qu'il faut qu'on file à l'Élysée littéralement faire la bamboche.
À l'Élysée. Est-ce que Ingrid Betancourt est une femme qui a fait montre de gratitude vis-à-vis de tous ceux qui se sont battus pour sa libération ?
On a décidé de dissoudre le comité de soutien à Ingrid Betancourt dans la foulée de sa libération, puisqu'elle était libre à présent. Ça a été difficile. C'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qu'on avait rencontré à travers un livre. Mais surtout, en réalité, c'est un combat pour des valeurs, des idéaux, qu'on avait porté pendant 6 ans et demi. Et c'est ce qui nous avait plus que tout guidé, cette haute image de la liberté qu'on avait, qui était extrêmement chère à Ingrid, dans son livre également. C'est pas pour rien qu'on s'est retrouvé à se mobiliser pour elle. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, quand je pense à ce combat-là, comme avec tous les autres membres du comité de soutien avec qui on est resté en contact, on en garde une grande fierté en cela que on a démontré que la liberté gagne toujours, même quand on décide d'en faire une cause perdue ou un mauvais cheval de bataille. Non, non. En fait, il faut jamais oublier, même dans les moments les plus sombres, que la liberté l'emporte toujours, quoi qu'on vous dise.
Merci beaucoup Hervé Marot d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir raconté Ingrid Bettencourt depuis 20h ce soir. Merci.